Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Il était un philosophe des sciences et de la pensée humaniste. Michel Serres est mort hier, il avait 88 ans. Nous lui rendrons hommage dans ce journal et nous entendrons la voix de ce penseur optimiste pour qui le paradis résidait avant tout dans l'amour de la vie. À Singapour, nous rejoindrons en direct notre correspondante Karine Noten pour analyser les dernières déclarations du ministre chinois de la Défense qui affirme que la Chine ne va pas renoncer à recourir à la force pour le processus de réunification avec Taïwan avant d'évoquer la guerre commerciale avec Washington. Et puis nous irons en Irak où le procès d'un djihadiste français va ouvrir ce matin à Bagdad. L'homme originaire de Roubaix dans le Nord risque la peine de mort. Le philosophe Michel Serres s'est éteint hier. Il avait 88 ans. Après être entré à l'Académie française en 1990, une vie riche de pensées, il laisse une œuvre tournée vers les bouleversements de la science. Ces bouleversements engendrés sur l'humanité, ce qui l'avait amené à réfléchir aussi sur ce qu'il nommait le contrat naturel, affirmant que la Terre doit devenir un sujet de droit. Il était aussi passionné par les moyens modernes de communication et profondément optimiste. Il semblait avoir déjà trouvé son bonheur ici-bas, comme il le confiait à Michel Polaco, avec qui il partageait Le Sens de l'Info, une chronique sur France Info pendant 14 ans.
Moi, j'aime bien courir le vaste monde et à travers mille pérégrinations par monts et par vaux, car le monde est beau, il vaut le déplacement et c'est peut-être le monde qui est le paradis. Parce que ce monde-là, le paradis, il y a des déserts, il y a des glaciers, il y a des océans, il y a des îles perdues, il y a l'espace intersidéral, etc. Bien sûr, sans traverser ce monde, c'est très simple, on n'aura pas de risque parmi les filous, parmi les croquants, parmi les méchants, mais il n'y aura pas de récit non plus, pas d'aventure. Et ces aventures de Tintin et Milou, c'était le paradis de mon enfance. C'est peut-être un peu de mon âge mûr. Et du coup, qu'est-ce que c'est le paradis? C'est délaisser tout trésor convenu et courir l'inconnu. Oh, cela dit, je crois qu'il y a un petit secret quand même. C'est que le vrai paradis, c'est quand même l'amour partagé.
Michel Serres était un philosophe d'une insatiable curiosité intellectuelle, Isabelle Caspasquier.
Le savoir rend heureux, le savoir rend libre. C'était l'une des inaltérables convictions de Michel Serres. En 1958, il est officier de la marine et il quitte son uniforme pour la philosophie. À la Sorbonne, il va côtoyer Michel Foucault et sa pensée ne cessera de repousser les limites de la connaissance, de la compréhension du monde entre sciences et sciences humaines. En 2012, Michel Serres séduit le grand public avec Petite Poucette, 270 000 exemplaires vendus. Il y explique la manière dont les nouvelles technologies ont créé un nouvel humain à travers des mutations sociales, politiques et cognitives. Michel Serres était un humaniste, un philosophe riche d'humour, pour qui l'intelligence, c'était l'imprévisible.
Un dossier est à retrouver en ligne sur franceculture.fr avec notamment des émissions à réécouter comme Les chemins de la philosophie d'Adèle Vendrette et À voix nue dans laquelle Michel Serres expliquait que c'est l'explosion de la bombe d'Hiroshima qui avait révélé sa vocation pour la philosophie. Nous partons maintenant à Singapour, au Forum sur la défense en Asie, où le ministre de la Défense chinois a tenu un discours très offensif ce matin. Alors qu'une guerre commerciale s'est engagée entre la Chine et les États-Unis, de nombreux acteurs craignaient encore il y a trois jours une escalade diplomatique, cette fois lors de cette rencontre qui réunit les ministres de la Défense de 30 pays. Karine Noten, bonjour.
Bonjour Sophie.
En direct de Singapour pour France Culture, le général Wei a d'abord présenté la version des faits de Pékin, remarquant les visions assez négatives à son égard depuis quelques mois.
Oui, Pékin est assez inquiet car depuis l'an dernier, le gouvernement chinois voit bien que les remarques négatives à son égard montent dans le monde entier et c'est pour cela qu'elle n'a pas hésité à dépêcher pour une fois le ministre de la Défense en personne au Shangri-La Dialogue. Alors, le général Wei avait pour mission d'expliquer la vision chinoise, de rassurer, mais comme il a utilisé la logorée habituelle du Parti communiste chinois, il a eu du mal à y parvenir. Encore une fois, l'ensemble des pays présents a bien compris que Pékin suivait sa propre réalité, notamment sur un dossier particulier, celui de Taïwan. Le général Wei a redit d'une manière particulièrement ferme que la Chine ne tolérerait pas une séparation Chine-Taïwan et qu'elle serait prête même à prendre les armes si on s'opposait à ce rapprochement. Concrètement, ça explique comment, depuis 4 mois, la marine chinoise a musclé ses réponses dans le détroit de Taïwan et escorté des frégates américaines et françaises. Ce que la France voit comme des eaux internationales, eh bien elle les considère appartenant aux eaux chinoises. Bref, Taïwan reste bien un détonateur facile à actionner. Le général Wei a confirmé l'extrême sensibilité chinoise.
Et le ministre de la Défense s'est aussi exprimé sur la guerre commerciale déclarée entre les États-Unis et la Chine et a expliqué que Pékin refusait de se faire harceler.
Un dialogue, oui, un affrontement, nous nous battrons et nous ne nous laisserons pas harceler. Le général Wei a eu des mots très forts en ce qui concerne la guerre commerciale. Pour la Chine, ce sont les États-Unis qui ont commencé. Il a redit l'indépendance de Huawei, l'entreprise de télécommunications chinoise, que c'est une bien pour lui une entreprise privée qui, assure-t-il, n'a aucun lien avec l'armée. Bref, ce qu'il faut retenir de ce week-end, c'est que côté diplomatique, la tension est tout de même retombée avec des mains tendues de part et d'autre, côté chinois et américain, et que le face-à-face s'est bien cristallisé avec deux acteurs qui campent sur des positions très fermes.
Merci Karine Hauten en direct de Singapour pour France Culture. La répression de 1989 de la manifestation de la place Tiananmen à Pékin était la politique correcte à adopter, a déclaré par ailleurs ce même ministre de la Défense chinois. Cet incident était une turbulence politique et le gouvernement central a pris les mesures pour stopper cette turbulence, ce qui a été la politique correcte selon ses mots. Alors qu'à Washington, ce matin, devant l'ambassade de Chine, une cinquantaine de manifestants ont commémoré aujourd'hui les 30 ans du massacre de la place Tiananmen, dont la date anniversaire est demain. Il y a 30 ans, près d'un millier de manifestants, en majorité des étudiants, ont été tués par le pouvoir de Pékin. Au Soudan, une personne est morte et 10 autres ont été blessés hier après des tirs des forces régulières près du siège de l'armée à Khartoum. Alors que des milliers de manifestants ont occupé la place, selon des médecins proches de la contestation, un rassemblement pour réclamer que le conseil militaire cède le pouvoir aux civils pour assurer une transition démocratique après le renversement par l'armée du président Omar al-Béchir le 11 avril dernier après de vastes manifestations. Le pape François est en Roumanie aujourd'hui, troisième et dernier jour de ce voyage, pendant lequel il ira à la rencontre de la communauté rome, mais aussi de la petite communauté catholique de rite byzantin, une église supprimée sous le communisme. Le souverain pontife a choisi de béatifier sept évêques tués par le régime, Mathilde Imberti.
Le pape François a été invité plusieurs fois en Roumanie, mais c'est la béatification de sept évêques qui a finalement déclenché sa venue. Des évêques fusillés, morts de faim ou des suites de sévices subies dans les prisons communistes. En 1948, le régime de Staline supprime l'église gréco-catholique et l'intègre à l'église orthodoxe de force. Le pape François vient restaurer aujourd'hui ce passé douloureux au mémorial de la liberté de Blage où l'évêque local de l'époque avait refusé de se soumettre. L'église catholique a eu du mal à se relever du communisme. La moitié de la population s'en revendique dans la région de Blage avant le stalinisme, aujourd'hui un petit 5%. Le pape François vient les encourager à entretenir leur foi. Ensuite, il se rendra dans la petite paroisse de la communauté rome pour un autre moment très attendu de cette visite. Il a réservé à Rome à de maintes reprises une attention toute particulière à cette population, mais jamais encore chez eux.
Mathilde Imberti, envoyée spéciale en Roumanie. En Irak, un djihadiste français est jugé ce matin à Bagdad. L'homme originaire de Roubaix, dans le Nord, risque la peine de mort. Céline Martelet, sur place pour France Culture. Fodil Tar Wadat va comparaître devant une chambre spéciale de la Cour pénale centrale d'Irak.
Une chambre spéciale où les procès de djihadistes s'enchaînent depuis plusieurs mois. 280 membres de l'État islamique étranger ont déjà été jugés dans la capitale irakienne. Et c'est la deuxième fois que Fodil Tar Wadat va comparaître devant cette chambre spéciale. Lundi dernier, la première audience a été reportée parce que devant le juge, le Roubaisien a assuré qu'il avait été torturé en détention. Le Français a montré en plein procès des marques sur son corps. Le juge a donc ordonné un examen médical dont les résultats devraient être versés au dossier aujourd'hui. Fodil Tar Wadat est bien connu des services de renseignement français, âgé aujourd'hui de 32 ans, il a quitté Roubaix en 2014 pour rejoindre la Syrie. Et dans les mois qui ont suivi, il a organisé le voyage du reste de sa famille, 22 personnes au total, dont ses parents et plusieurs de ses sœurs. L'un des premiers cas de ce que l'on a appelé le djihad en famille. Sa mère est décédée à Raqqa et son père, âgé de 74 ans, est toujours détenu par les Kurdes en Syrie. Le Roubaisien est également soupçonné d'avoir voulu commettre une action violente en France. Et l'an dernier, deux de ses sœurs restées à Roubaix ont été condamné pour lui avoir envoyé en Syrie près de 15 000 euros, dont une partie provenait des aides sociales françaises. Devant cette chambre spéciale à Bagdad, son procès devrait durer tout à l'heure à peine quelques heures. À ses côtés, un avocat irakien commis d'office. Il risque, comme les autres Français, la peine capitale, c'est-à-dire ici la pendaison. Il faut savoir que devant la justice irakienne, tout individu qui a rejoint une organisation terroriste est passible de la peine de mort, même s'il n'a jamais combattu.
Céline Martelet à Bagdad pour France Culture. Plusieurs ONG dénoncent des parodies de justice, car depuis une semaine, 8 des 12 djihadistes français transférés à Bagdad par les Kurdes de Syrie ont été condamnés à mort. En France, le site de Belfort ne fermera pas, c'est ce qu'affirme ce matin le patron de General Electric France, après l'annonce par le groupe américain de sa volonté de supprimer plus de 1000 postes en France. Hugues Baillet déclare que son rôle est de développer l'activité française et de la promouvoir à l'étranger, selon ses mots. Une avancée majeure dans la lutte contre le cancer du sein. Un nouveau traitement permet d'améliorer considérablement le taux de survie des femmes de moins de 60 ans souffrant du type de cancer du sein le plus courant. Selon une annonce des chercheurs à Chicago, ces recherches montrent qu'ajouter un inhibiteur du cycle cellulaire permet de pousser le taux de survie jusqu'à 70% après 3 mois et demi. Un temps estival aujourd'hui, soleil partout et record de température comprise ce matin entre 17 et 28 degrés.